Bonjour à toutes et à tous. Isabelle Dupuis pour ce journal de la radio des Nations Unies. Avec en titre, l'ONU dénonce les violences au Soudan du Sud. Inquiétude face à la lenteur de la reconstruction à Gaza. Le PAM réussit à livrer de l'aide dans le nord de la Syrie. Le secrétaire général au sommet d'Oslo sur l'éducation pour le développement. Publication du rapport sur la mort de Dag Hammarskjöld. Il sera aussi question de la situation des droits de l'homme au Yémen et de la discrimination raciale aux États-Unis. La mission de l'ONU au Soudan du Sud dénonce fermement la mort d'une personne déplacée qui a été abattue dimanche alors qu'elle se trouvait dans l'un des sites de protection de civils situés dans l'enceinte de la mission à Bentiu dans l'état d'Unité. La MINUS a lancé une enquête sur cet incident. Alors que le Soudan du Sud marque cette semaine le 4e anniversaire de son indépendance, le Haut Commissariat aux réfugiés s'inquiète de son côté de l'ampleur des déplacements provoqués par l'irruption de la guerre civile et des violences en décembre dernier. Alpha Diallo.
Des dizaines de milliers de sites soudanais continuent de fuir les combats dans l'état d'Unité et du Haut-Nil. Au moment de célébrer son 4e anniversaire, le Soudan du Sud compte désormais plus de 1,5 million de déplacés internes et 730 000 réfugiés dans les pays voisins. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, 180 sites soudanais arrivent chaque jour en Éthiopie. Au total, ils sont 275 000 réfugiés dans ces pays, alors que le Soudan abrite 188 000. Et depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, 155 000 sites soudanais se sont également réfugiés en Ouganda, alors que 46 000 sont partis au Kenya, portant le nombre total de réfugiés dans ces pays à 125 000. Et selon le HCR, 90% de ces exilés sud-soudanais sont des femmes et des enfants. À l'intérieur du pays, cette insécurité fait que plus de 153 000 civils se sont réfugiés dans les 6 bases de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Et pour plusieurs organismes humanitaires, ces violences exposent les civils à une violence généralisée et restreint sévèrement le fonctionnement de l'aide humanitaire dont les sud-soudanais ont pourtant désespérément besoin.
Mardi, le coordinateur humanitaire pour les territoires occupés en Palestine, Robert Piper, a fait part de son inquiétude face à la lenteur des travaux de reconstruction dans la bande de Gaza. Un an après les hostilités qui ont tué plus de 1 400 personnes, dont 551 enfants, 100 000 personnes demeurent déplacées et 120 000 personnes attendent toujours d'avoir accès à l'eau courante. 30% seulement des 5 milliards de dollars promis par la communauté internationale pour reconstruire ont été perçus. Kathleen Mace est responsable du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Gaza.
Notre bilan n'est pas très positif. En fait, il n'y a pas de reconstruction des maisons qui ont été détruites. Et il y a beaucoup de frustration entre les gens parce qu'ils ne voient pas de progrès, il n'y a pas de travail, les problèmes de santé avec les hôpitaux, problèmes d'électricité, problèmes d'eau qui n'est pas de bonne qualité et encore, bien sûr, le blocus sur Gaza. La communauté internationale avait fait des promesses de beaucoup d'argent, 5 milliards et encore un peu plus, qui n'est pas encore arrivé pour commencer la reconstruction.
Moyen-Orient toujours. En Syrie, le Programme alimentaire mondial et un partenaire local sont parvenus à livrer plus de 2000 rations alimentaires dans le gouvernorat d'Ar-Raqqa, dans le nord du pays. Selon les informations, les forces de l'État islamique se seraient retirées de la ville de Tal Abyad à la mi-juin. Cette livraison du PAM, qui survient après plus de 8 mois d'accès interrompu, permettra de nourrir 10 000 personnes pendant un mois. Les explications d'Elisabeth Birce, porte-parole du PAM.
La situation dans ce gouvernorat est critique. Les personnes ont vraiment besoin d'une assistance alimentaire. Les activités agricoles sont interrompues en raison de la situation d'insécurité. La frontière avec la Turquie est fermée, ce qui entraîne le fait que les denrées alimentaires et les autres biens ne peuvent pas passer régulièrement dans ce gouvernorat d'Ar-Raqqa. Le résultat de tout ça fait que les stocks alimentaires, les réserves de la population sont épuisées et parallèlement, les prix de la nourriture et des autres denrées sont extrêmement hauts vu la rareté.
Le secrétaire général poursuit ce mardi son voyage en Norvège. À Oslo, il s'est entretenu avec le premier ministre Erna Solberg. Ban Ki-moon a aussi participé au sommet d'Oslo sur l'éducation pour le développement. L'occasion pour lui d'inviter les pays développés à s'inspirer des efforts exemplaires de la Norvège.
There are still 58 million school-aged children who are out of school.
Il y a encore 58 millions d'enfants en âge d'être scolarisés qui sont hors de l'école. Et si nous ajoutons les adolescents qui sont hors du système scolaire, cela fait plus de 120 millions de personnes qui ont besoin d'être éduquées à l'école. Je continue de compter sur la Norvège. À cet égard, je soutiens fermement l'annonce qui a été faite par le Premier ministre, la mise en place de la Commission de l'éducation, avec tous ces leaders mondiaux qui nous rejoignent, avec Gordon Brown comme coordinateur de cette commission. Je cherche à recevoir de bonnes recommandations pour savoir comment nous pouvons appliquer et renforcer le soutien à l'éducation pour nombre et nombre de personnes laissées pour compte.
Le secrétaire général, qui a par ailleurs rendu public le rapport final du groupe indépendant d'experts chargé d'étudier les nouvelles informations relatives à la mort tragique de l'ancien secrétaire général Dag Hammarskjöld. Le diplomate suédois et 15 personnes qui l'accompagnaient ont été tuées dans un avion qui s'est écrasé durant la nuit du 17 au 18 septembre 1961 dans ce qui est aujourd'hui la Zambie. Les explications de Jérôme Bernard.
Selon le secrétaire général, le groupe indépendant d'experts a recueilli des informations additionnelles d'une valeur probante jugée comme étant modérée, autorisant d'envisager l'hypothèse d'une attaque aérienne ou d'une autre interférence de ce type comme la cause possible de l'accident d'avion qui a tué Dag Hammarskjöld en 1961. Le rapport des experts présente aussi de nouveaux éléments d'information concernant la fatigue de l'équipage, susceptibles de donner lieu à une ou plusieurs hypothèses. Les experts ont par contre jugé que les nouvelles informations relatives au détournement et au sabotage de l'appareil ont une valeur probante faible, voire nulle. Sur la base de ces éléments de preuve, le secrétaire général Ban Ki-moon s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'un nouvel examen ou d'une nouvelle enquête dont l'objectif serait de faire toute la lumière sur les faits.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et le Yémen. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est vivement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et des droits humains. De plus, malgré une situation tendue sur le terrain, les Nations Unies n'ont reçu que 13% des 1,6 milliard de dollars demandés pour aider le Yémen. Alpha Diallo a joint Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme.
Entre le 17 juin et le 3 juillet, il y a au moins 92 civils qui auraient été tués et 179 autres qui auraient été blessés, ce qui nous amène à un nombre total de morts depuis le début du conflit à plus de 1500 personnes. Donc une situation toujours très très préoccupante, que ce soit en termes de perte de vie humaine ou de violation des droits de l'homme et de la situation humanitaire, et également qui reste très préoccupante.
Et qu'en est-il des conséquences des bombardements de la coalition ?
Eh bien, ils font des morts parmi les civils. La situation est très compliquée, et notamment à Sanaa. Mais à travers tout le pays, dans beaucoup de gouvernorats, la situation est vraiment compliquée. Il y a bien sûr les bombardements. On a aussi des clashs sur le terrain. Donc en effet, depuis le 17 juin, il y a les frappes aériennes menées par la coalition ont continué, et d'autres attaques également qui ont fait des morts parmi les civils, y compris des femmes et des enfants, et notamment à Sanaa.
Les conséquences des attaques contre les bâtiments de l'ONU ?
Notre équipe sur place a suivi de près ces attaques contre les bâtiments des Nations Unies. Le 28 juin dernier, un civil a été blessé lors d'une attaque aérienne qui a frappé les bureaux du PNUD dans le gouvernement d'Aden. Et puis, il y a également deux centres de l'OIM qui ont été partiellement détruits, à Arad et à Bassaten.
Le rapport du Haut-Commissariat parle de violation des droits humains par toutes les parties. De quel type d'abus parlez-vous ?
On parle de différentes sortes d'abus. On a à la fois des pertes en vie humaine, des cas de kidnapping, de mauvais traitements, également des atteintes à la liberté d'expression et de rassemblement pacifique, et également des attaques contre les travailleurs humanitaires, le personnel médical, les journalistes. Donc toute une série de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui nous préoccupent énormément.
Vous parlez aussi de milliers de détentions arbitraires, des exécutions sommaires de combattants. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, notamment à Sanaa, nous avons reçu des rapports m'indiquant que des dizaines de civils auraient été enlevés et soumis à la détention arbitraire par les forces houthis présentes sur place.
Par rapport aux exécutions sommaires de combattants, c'est des houthis qui ont tué des autres combattants. Comment ça se passe exactement ?
Les autres rapports que nous avons reçus, c'est que des comités locaux de résistance populaire qui sont affiliés au président en exil auraient, d'après ces rapports, exécuté de manière sommaire au moins 6 personnes dont on ne sait pas s'il s'agit de civils ou de combattants, mais des personnes qui étaient considérées comme loyales à la coalition entre les Houthis et l'ancien président Salé. Et ils sont aussi accusés d'avoir commis des actes de mauvais traitement.
Les humanitaires se plaignent beaucoup des restrictions de mouvement par rapport à leurs opérations humanitaires. Qu'en est-il des restrictions de mouvement des biens et des personnes ?
Eh bien, on voit bien qu'il y a de grosses restrictions sur cet accès humanitaire. À la fois, depuis le début du conflit, il y a des restrictions, à la fois aériennes, aussi l'accès par la mer est restreint, qui limite les importations. Or, on sait qu'au Yémen, la situation est vraiment difficile de ce fait. Le Yémen a importé avant la crise plus de 90% de sa nourriture. Il y a aussi des problèmes d'importation du carburant, avec des conséquences telles que l'augmentation des prix de la nourriture, parce qu'il faut la transporter. Donc, il y a toute une série de problèmes.
Voix de femme.
Le 18 juin, 9 Afro-Américains étaient tués dans une église à Charleston, en Caroline du Sud, un crime à motif apparemment raciste. Sur invitation du gouvernement américain, le groupe d'experts des Nations Unies sur les peuples de descendance africaine doit effectuer une visite officielle dans le pays au début de l'année prochaine. Au micro de Tsige Chiferau, la présidente du groupe, Mireille Fanon Mendes France, précise quelles mesures d'urgence les experts aimeraient pour éviter un autre drame de ce genre.
Ce qu'on peut souhaiter, c'est que la question du racisme anti-afro-américain soit prise beaucoup plus au sérieux par le gouvernement lui-même américain, parce que ce n'est pas le seul cas. Depuis un an, il y a eu des cas dont tout le monde a entendu parler. Non pas qu'il n'y en avait pas avant, mais on en avait moins parlé. Donc, je pense qu'il y a réellement un problème et il s'agirait que les États-Unis les prennent en charge cette question. Et presque, on pourrait penser, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un moment donné de mettre en plan, on pourrait penser à un plan Marshall anti-racisme, anti-discrimination raciale, parce qu'on est en train à l'heure actuelle en fait de retourner à des moments anciens qu'on croyait définitivement terminés. Il y a eu déjà un rapport qui a été fait, il y a eu des recommandations. Lors de la dernière visite qui avait été faite aux États-Unis en 2005, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement américain vient d'inviter le groupe de travail à revenir aux États-Unis et les dates sont fixées, en tout cas le mois est fixé, ce sera au mois de janvier 2016.
Avez-vous peut-être observé que depuis l'élection d'un président d'une autre origine ethnique que celle qui a toujours prévalu jusqu'à présent n'a pas incité une partie de la population à ce genre de choses ?
Je ne crois pas. Je pense qu'il y a d'abord une réalité économique très difficile aux États-Unis, où énormément de gens sont exclus de tous les systèmes de soutien social et autres. Il y a donc une partie de la population, et ça ne sont pas seulement les Afro-Américains qui en sont victimes, mais aussi toute une partie de la population blanche. Donc je pense que tout ça aussi, le fait qu'il y a des guerres qui sont portées aussi par les États-Unis dans d'autres pays, où les gens, les soldats en reviennent dans des situations très difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une récession économique qui est réelle. Il n'y a pas vraiment de création d'emplois pérennes. Ce sont plutôt des emplois dans le tertiaire. Bon. Donc il y a un mécontentement quand même, une espèce de...
Et vous pensez que ce mécontentement peut être à l'origine d'une certaine frustration ?
Comme il y a des communautés différentes et qu'il y a une forte identité communautaire, elles peuvent malheureusement susciter des espèces de crispations très fortes et qui vont, pour une raison ou une autre, à un moment donné, se traduire par des actes d'une violence inouïe. C'est pas seulement le désarroi, c'est que il y a aussi quand même, on regarde tout ça, il y a une culture de la violence dans la société américaine où on a l'impression que les problèmes se règlent tels qu'ils pouvaient être réglés au moment du Far West. Enfin bon, et la question des armes est aussi une question très importante.
Est-ce qu'une diminution des circulations des armes à feu est une des mesures que vous feriez lors de votre prochaine visite ?
Ce serait pas la première, en tout cas. La première, c'est quand même que la question de la racialisation, de la discrimination raciale cesse.
Et c'est avec Mireille Fanon-Mendès-France que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Un journal à retrouver sur l'Internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.